On va parler de la situation du coronavirus au Québec, mais pas seulement au Québec, au Canada aussi. Ça va mal un peu partout au pays. Même l'excellent élève qui était la Colombie-Britannique, un modèle à suivre, qui était cité pas juste au Canada, mais à d'autres endroits dans le monde, comme un modèle d'endiguement du coronavirus pendant la première vague au printemps. Mais même en Colombie-Britannique, le nombre de cas commence à exploser. On va en parler immédiatement avec Patrick Derry, notre analyste de politique publique spécialisé en santé. Salut Patrick.
Salut, monsieur.
Écoute, avant qu'on commence, je veux qu'on parle de... je veux qu'on écoute un extrait de l'entrevue que j'ai réalisée en début d'émission avec Dr. Don Shepherd, là, qui est directeur de l'initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill. Il est médecin spécialiste en maladies infectieuses. Lui trouve que le plan du gouvernement du Québec de nous permettre de nous réunir, c'est vraiment pas une bonne idée.
J'ai la misère à comprendre comment ils peuvent faire les décisions comme ça. Tout le monde dit « Ah, oh, mais les gens vont se réunir quand même, donc il faut donner un plan. » Non, il faut informer le public, le grand public qui est assez intelligent, que la meilleure chose d'éviter un autre pic, d'éviter un troisième vague au milieu de deuxième vague, c'est de ne pas réunir. Ça, c'est les faits. Ça, c'est les faits qui sont importants et clairs.
Patrick, est-ce que je me trompe ou c'est rare qu'on a des spécialistes en infectiologie qui sortent de façon aussi brutale contre le gouvernement?
Ben moi, c'est surtout la première fois qu'un gestionnaire, parce que c'est lui le directeur là, de son département, là, au CUSUM, là, depuis le début de la pandémie, moi, j'ai pas souvenir que quelqu'un sorte de façon aussi violente.
Oui.
Parce qu'il l'a fait, il a donné une entrevue à CTV, je pense que c'est vendredi dernier, là, que moi j'ai diffusé cette semaine, là, puis le monsieur s'exprime très bien en français, on comprend ce qu'il dit, là, mais la livraison est encore une cosse au-dessus en anglais. Puis écoute, il était fâché. Furieux. À un moment donné, il a dit, c'est pas parce qu'on dit aux gens qu'il y a une période de 14 jours avant de savoir s'ils vont développer la maladie. On dit normalement aux gens qu'il y a une période de 14 jours avant de savoir s'ils vont développer la maladie. On peut pas faire une vente au rabais de 50% juste parce que c'est Noël, puis prendre une période d'isolation de 16 jours. Et il a même dit, c'est un moment historique où dans 5 ou 10 ans, tu vas devoir dire à tes enfants, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour empêcher que des morts inutiles se produisent. Et il en a renchéri en disant « La science n'accepte pas une chose telle qu'un contrat, qu'il soit moral ou autre. Le virus se fiche si nous avons conclu une entente avec nous-mêmes. Il est heureux de se répandre si on lui en donne l'opportunité. Faisons pas ça. » Fait que non, c'est une sortie qui est très forte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les médecins sont souvent aussi... certains se prononcent, mais d'autres se prononcent moins. Et ça a été relayé par plusieurs médecins aussi. Fait qu'il y a une inquiétude parmi les gens qui sont sur le terrain, donc des gens qui sont peut-être un petit peu plus loin des décisions gouvernementales, qui est réelle puis qui est incarnée assez fortement dans ce message-là.
Et je rappelle qu'en Ontario, le premier ministre Ford, puis regarde, on va mettre tout de suite un bémol avant que je continue ma phrase, Patrick, là, même en Ontario, il y a des grosses critiques contre la gestion du gouvernement dans cette deuxième vague, mais en Ontario, le premier ministre Ford a dit... Écoutez, vous allez célébrer Noël, mais voici la directive. Vous la célébrez avec les gens qui habitent dans votre maisonnée. On va écouter un deuxième extrait de l'entrevue que j'ai réalisée avec Dr. Shepherd.
Le gouvernement fédéral a dit pas de réunion Noël. Les autres pays, comme l'Allemagne, les autres pays qui sont très efficaces à contrôler l'épidémie, la pandémie, ont dit exactement la même chose. Pourquoi soudainement au Québec, on est différent?
Donc, écoute, j'entends ça, Patrick, mais aussi je me dis, tu sais, oui, le fédéral, c'est vrai, le fédéral a donné ça. Mais le fédéral, c'est loin. Le fédéral risque de ne pas payer un prix politique pour avoir dit aux gens « restez chez vous ». Dans les provinces, c'est une autre paire de manches quand même, là.
Oui, mais tu sais, Doug Ford l'a fait. Puis, tu sais, il y a juste une nuance, les personnes seules vont pouvoir se réunir avec leur famille, mais c'est la seule exception qui a été accordée. Et l'Ontario, il faut le rappeler, là, présentement, c'est la province parmi les 4 grandes provinces qui présente la moins grande contamination. Là, c'est-à-dire que présentement, le Québec a 50% plus de cas là, au jour le jour que l'Ontario en proportion de sa population. Et l'Ontario, c'est aussi la province qui a la plus faible mortalité présentement. Donc, c'est eux qui sont dans la meilleure situation, toute proportion gardée, mais malgré tout, ils prennent des décisions qui sont difficiles, qui sont impopulaires, mais qui sont nécessaires.
OK. Parle-moi de l'opacité de la santé publique. Là, il y a le devoir qui a obtenu des centaines de courriels qui ont été adressés à la santé publique du Québec.
Oui, c'est ça. Ben écoute, je me suis dit que c'est un sujet qui te ferait plaisir. Si t'aimes ça, parler de ça.
D'opacité et de transparence.
Oui, exactement. Dans le cas du ministère de la Santé et de la Santé publique. Donc, en fait, une demande d'accès à l'information pour voir les courriels qui ont été envoyés à Dr Arruda par les directeurs régionaux de la Santé publique, donc les vis-à-vis de Dr Arruda un petit peu partout. Et ce qui est intéressant quand on lit l'article, c'est la paranoïa dont on a souvent parlé de certains décideurs publics, en tout cas d'employés du gouvernement. C'est évident, et même quand il s'agit que de l'information qui ne circule que quelques heures plus tôt. Et par exemple, à un moment donné, il est question de la diffusion du nombre de cas que des élus, donc des gens qui ont été pour les qui on a voté pour nous représenter, qui reçoivent un petit peu plus tôt dans la journée le nombre de cas qui vont être annoncés. Ils ont une crainte mortelle que ça soit diffusé avant 11 heures, comme c'est le cas tous les jours, parce que c'est à 11 heures que le gouvernement dévoile le bilan. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'information? De toute façon, on ne peut pas agir là-dessus. Fait qu'il y a un désir de contrôle de l'information qui est absolument obsessionnel, cet article le montre. Et il y a des citations qui sont assez intéressantes, notamment par un directeur de la santé publique, je pense que c'est celui du Bas-Saint-Laurent, à un moment donné. Il dit « Je crois comprendre que nos courriels pourraient éventuellement être accessibles en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Plusieurs des éléments que j'aborderai le seront sans entrer dans trop de détails, qu'il me ferait plaisir de vous partager verbalement. » Et là, il s'adresse entre autres au docteur Arruda. Je trouve ça absolument saisissant, parce que ça ne leur appartient pas.
Patrick, moi, je suis absolument pas, je trouve pas ça saisissant, je trouve pas ça surprenant. Le modus operandi de l'appareil d'État, que ce soit en santé publique, en éducation, qu'importe, là, name it, c'est l'opacité. Moi, j'ai été surpris, en voyant le truc du devoir ce matin, Patrick, là, j'ai été surpris qu'ils aient réussi à obtenir ces courriels-là en vertu de la loi sur l'accès à l'information, parce que cette loi-là devrait porter un autre nom. Devrait être la loi sur le déni de l'accès à l'information. J'ai été surpris que ça soit donné si vite dans un contexte qui est le nôtre présentement.
Et je suis d'accord avec toi. Je suis autant au courant que toi, mais peut-être je suis trop idéaliste, mais chaque fois, ça me rescandalise. Mais écoute, c'est peut-être un stagiaire qui a pris la décision puis qui ne savait pas qu'il a décidé de le laisser passer. Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est ce qu'on comprend, c'est qu'à un moment donné, il est question de chambres à pression négative pour des établissements de santé. Donc, ça veut dire que, et c'était en avril, il y avait donc une préoccupation pour les aérosols, parce que c'est pas pour les crachats puis c'est pas pour les surfaces, les chambres à pression négative. À l'approche de la pandémie, comment qu'on allait gérer ça alors que les cas commençaient à monter rapidement au Québec. Fait que donc, c'est encore un autre exemple de la main gauche, je sais pas ce que la main droite fait ou ne veut pas le voir, puisqu'on a nié le problème des aérosols encore récemment. Le premier ministre, le ministre de la Santé, Dr Arruda, a dit non, c'est pas un mode de transmission qui est signifiant, puis évidemment, les directives qu'on a données pour Noël le montrent. Mais dès avril, il y avait des gens de la santé publique qui s'inquiétaient de ça.
OK. Écoute, tu veux aussi me parler du fait que, bon, là, on a vu Dr Arruda qui a un peu rétro-pédalé, comme le reste du gouvernement, sur la question là, des paramètres qui vont nous permettre de nous rencontrer du 24 au 27 en famille. Il y a beaucoup d'infos approximatives et tu te dis, coudonc, y ont-tu pensé avant de le dire?
Je ne sais pas. Je le sais pas. C'est comme quelque chose qui était là. La dynamique interne, personne ne le sait, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'avis écrit, mais on a l'impression que la santé publique a peut-être voulu faire quelque chose pour faire plaisir aux politiques. Le politique l'a fait, ils l'ont fait rapidement. C'est sorti, on a dit parfait, pendant 4 jours, vous allez vous rencontrer. Ça a soulevé beaucoup de questions et même un certain tollé. Après ça, on dit, 2 jours, ça serait mieux. D'ailleurs, quand on a vu M. Legault, sa réaction quand il s'est fait poser en point de presse cette semaine, comment ça s'est passé de 4 jours à 2 jours, il s'est retourné vers Dr Arruda et il dit écoute, explique, hein, parce que moi, je fais ce qu'on me dit. D'ailleurs, M. Legault a minimisé cette semaine la nécessité de s'isoler. Ça, c'est un point qui est significatif aussi. Hein. Il a dit qu'il comprenait qu'il y a des gens qui doivent travailler la semaine avant Noël, puis leur dit écoutez, portez un masque et restez à 2 mètres. Donc, il y avait une directive d'isolation, finalement, qui est diminuée par le premier ministre. Et ça, à un moment donné, tu sais, moi, ça fait des mois que je regarde les points de presse, que je les écoute assez religieusement, que je fais de la correction de fait. Puis le nombre d'informations approximatives ou des choses qui sont faites un petit peu sur le fly, ça commence à être élevé. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup d'improvisation. Il est peut-être le temps qu'on commence à à séparer la santé publique, qu'on ait des communications indépendantes, qu'on ait des communications qui soient publiées. Le politique aura encore le dernier mot, mais au moins, on saurait quelle est la recommandation de la santé publique, pourquoi ils font cette recommandation-là, et si le premier ministre décide de ne pas la suivre, et il va avoir à l'expliquer plutôt que d'être dans le flou qu'on voit présentement, parce que depuis une semaine, là, c'est un petit peu un cirque, puis ça paraît assez mal.
Merci Patrick, excellent week-end.
Bonne fin de semaine.